Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yawmiddin wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma ya karim, rabbi zidna ilma ya karim, rabbi zidna ilma ya karim, rabbi shahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. La dernière fois, on avait vu la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de l'année de l'éléphant. Et on avait vu les différents miracles qui ont eu lieu à sa naissance. Tout ça prouvait à l'humanité que Allah Azza wa Jalla a envoyé dans ce dunya une personne exceptionnelle. Et on avait rappelé que les miracles qui ont eu lieu à la naissance du prophète alayhi salat wa salam n'ont pas son équivalent dans les autres prophéties. Et un des points qu'on a retenu, je pense, c'est cette lumière qui est sortie de sa maman Amina lorsque le prophète alayhi salat wa salam est venu au monde. Nous allons voir aujourd'hui les prochaines étapes après la naissance du prophète alayhi salat wa salam. Al-Mubarak Fawri rahimahullah développe ensuite l'annonce de la bonne nouvelle de la naissance du prophète alayhi salat wa salam à son grand-père qui s'appelait Abdul Muttalib. Et on rappelle que son grand-père était on appelle ça min zu'ama Makkah, un notable de la Mecque, une des personnes les plus respectées à Makkah al-Mukarrama. Abdul Muttalib a pris cet enfant, ce bébé, alayhi salat wa salam, et l'a emmené dans la Kaaba. Et il a évoqué Allah et a remercié Allah. Alors, il y a quelque chose qui m'interpelle là. Abdul Muttalib, adorateur d'Allah ou adorateur d'idole? Vous êtes sûr? La réponse est plus complexe. Je répète ma question. Abdul Muttalib, adorateur d'Allah ou adorateur d'idoles? Adorateur d'Allah et des idoles. C'était ça le problème avec les Mekkais. Tous les Ahlou Makka adoraient Allah. Et si on leur demandait qui a créé les cieux, qui a créé la terre, ainsi de suite, ils disaient que c'est Allah. Qui nous cite le verset? Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulun Allah, yaqulun Allah. Si on leur demandait, ouais, c'est ce que je viens de dire, qui a créé les cieux et la terre, ils ont dit c'est Allah. Quand ils étaient en mer, en voyage, en détresse, dans la tempête, en bateau donc, dans la tempête, da'awullaha mukhlisin lahuddin. Quand ils savaient qu'ils allaient mourir, ils levaient les mains, ils invoquaient Allah. Vous savez que c'est Allah qui crée les situations et c'est Allah qui a tout pouvoir sur toute chose. Mais lorsqu'ils retournaient sur la terre ferme, ils revenaient vers l'adoration de leurs idoles. En pensant que ce sont des idoles, ça les rapproche d'Allah. Donc Abdul Muttalib entre dans la Kaaba et il invoque Allah. Les doigts, c'était toujours vers Allah. Il demande à Allah, il remercie Allah pour ce cadeau. D'accord. Et je me permets une petite parenthèse. Deux de mes amis ont eu un bébé hier. Je ne vais pas citer les noms, bien sûr, mais c'est la Oumma. C'est la Oumma. C'est des frères. Les deux, c'est des garçons en plus. Enfin, en plus, il n'y a rien de. C'est des garçons. C'est souvent la fierté des parents d'avoir des garçons parce que le nom se perpétue. On dira ce qu'on veut, hein. C'est ancestral, ça. Hein. Les Arabes, pour eux, c'était important d'avoir des garçons. L'islam, je change un petit peu de sujet. L'islam. Bilax, bien au contraire, a reproché cette attitude que lorsqu'on leur annonçait, quand on leur annonçait que c'était une fille, ils étaient tristes, ils étaient en colère, ils n'acceptaient pas. Pourquoi ils n'acceptaient pas? Parce que le fils, le garçon, va perpétuer le nom de famille. Ta fille se marie, elle portera le nom de son mari, et ses enfants porteront le nom d'eux, et ainsi de suite. On a compris? Voilà. Et donc je reviens, et de cette façon l'islam a honoré la femme, a honoré la naissance des filles. Oui, qu'Allah Rabbul Izzah accorde à ces deux nouveau-nés un merveilleux taqdir, un destin extraordinaire, exceptionnel. Allah les garde sous sa protection, protège leur iman, fasse entrer la lumière de la foi de leur cœur, et chaque jour ce sera un jour où ils vont réussir fi dunya wal akhirah. Allahumma amin. Et pareil pour les enfants, ceux qui sont grands, et pour Jami al-Mu'minin wal-Mu'minat wal-Muslimina wal-Muslima. Allahumma amin. Je referme cette parenthèse Et donc, il a remercié Allah pour ce cadeau, cette naissance. Et il l'a appelé Muhammad. Et Muhammad, c'était un nom très rare à cette époque. Et au septième jour, il y a eu le khitan, la circoncision, comme c'était déjà l'habitude chez les Arabes avant l'islam. Et c'était déjà l'habitude chez les Yahouds. Très bien. La première femme qui a allaité le prophète alayhi salat wa salam s'appelait Thuwayba. Et c'était une esclave d'Abu Lahab. Une esclave d'Abu Lahab. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la période où le prophète alayhi salat wa salam sera confié à une nourrice. Et tout le monde connaît le nom de cette nourrice. Comme on dit à chaque fois, c'est des programmes connus, ça. Tout ça, on a appris à la madrasa. On l'a peut-être un petit peu oublié, mais on se rappelle ensemble. Comment s'appelait cette fameuse nourrice? Pas toi. Ah, Abdurrahman. Oui. Vas-y, pas toi. Ah. Halima As-Sa'diya. Halima As-Sa'diya. Alors, Al-Mubarak Fawri explique que c'était de l'habitude des Arabes de donner leurs enfants à des nourrices en dehors de Mecca pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que l'air du désert est fortifiant. Ça va permettre à l'enfant également de grandir dans un contexte un peu éloigné du confort. Ils vont devenir forts, robustes, et même sur le plan physique, en termes d'un langage moderne, on va parler de système immunitaire, j'allais dire système humanitaire, ça devait être bien ça, hein? C'est un fameux lapsus, ça nous manque ça, un système humanitaire, on manque d'humanisme, hein? Un système immunitaire qui est plus fort. Donc les enfants qui grandissent dans le désert, ils sont plus forts. Et également dans le désert, ce qui n'est plus du tout le cas de nos jours, dans le désert, ils apprennent l'arabe fusha, le vrai arabe. Parce que les bédouins, à l'époque, parlaient l'arabe pur et authentique, contrairement aux gens des villes. De nos jours, c'est plus du tout le cas. Les bédouins, ils parlent le badawi. C'est incompréhensible. C'est le dialecte, mais c'est même pas le dialecte des villes, c'est le dialecte du désert. Et moi, je connais même des gens de la ville, des Arabes, des Saoudiens, ils comprennent pas quand les Bédouins parlent. À ce point, hein, c'est bon. Je referme cette parenthèse. Donc, pour plusieurs raisons, les Arabes avaient cette tradition d'envoyer les nouveau-nés avec une nourrice. Et justement, Halima Sa'diya fait partie de la tribu des Bani Sa'd ibn Bakr. Bani Sa'd ibn Bakr. Naam. Comment ça se passait, cette étape de confier son enfant à une nourrice? Les parents amenaient les bébés dans un endroit, un genre de souk, un genre de marché, et les nourrices venaient. Et puis, ils négociaient. Une nourrice dit, ouais, moi je prends tel enfant, et puis il y avait bien sûr une contribution, une contrepartie financière. Et Allah a décrété que Halima arrive en retard. Elle arrive en retard. Au marché, enfin au marché, j'appelle ça comme ça, à l'endroit où on pouvait prendre les bébés avec leur maman. Parce qu'elle avait une ânesse. Ânesse, bon, c'est le féminin de âne, d'accord? Elle avait déjà, on voit ses conditions de vie, elle n'avait pas de monture, de cheval ou autre chose. Elle se déplaçait sur une ânesse qui était vieille et fatiguée. Et elle avait également un enfant. Halima avait également un enfant. Et cet enfant avait pleuré toute la nuit de faim. Elle-même, Halima, et ça, ça fait partie, c'est là qu'on voit le miracle prophétique qui se met en place. J'allais presque dire, indépendamment de la volonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des situations quand Nabi sallam est prophète, il fait des miracles. Par exemple, il met sa main dans un récipient où il y a un peu de nourriture et toute une armée, et ils peuvent manger d'une petite marmite. Qui normalement est suffisant. C'est des histoires qu'on connaît. Ou comme il a mis sa main Moubarak dans un petit peu d'eau qui coulait dans une source et c'est devenu comme une rivière. Tout le monde a pu faire les ablutions, boire et donner et les animaux à boire. Ça, c'est le miracle que le prophète Sam faisait. Il le faisait. Il était acteur de ça. Mais là, ce sont des miracles qui se passent alors qu'il est encore inconscient d'une certaine façon. Ce sont des signes qu'Allah envoie et ce sont des miracles à deux niveaux. Des miracles visibles et palpables par Halima, son mari, les dames autour, les autres nourrices. Mais il y a également des miracles qui sont beaucoup plus subtils, qui vont toucher les cœurs. De quelle façon chaque personne qui voyait ce bébé et par la suite cet enfant éprouvera de l'amour pour lui et du respect pour lui. Même les vieux arabes les plus durs, les plus anciens, ceux qui sont très à cheval sur les traditions, quand il voyait Mohammed, il comprenait qu'il y avait quelque chose de spécial. Et tout le monde trouvait de l'amour pour cet enfant. Ça, on va développer un peu plus tard. On commence avec l'histoire de Halima Saadiya. Elle est nourrice, mais elle n'avait pas assez de lait pour son bébé. Permettez-moi une petite parenthèse, hein. Parenthèse sur le plan médical et tout, même si c'est pas mon domaine, mais il est dommage que beaucoup de jeunes mamans maintenant décident de passer directement au lait maternel, ou là ça dit lait en poudre, je sais pas, lait maternel c'est le lait de la maman, voilà le lait fabriqué à l'usine en boîte. Allah musta'an. Allah Rabbul Izzah dans sa hikma, sagesse, et dans l'organisation de la création a fait en sorte, a décrété, il a organisé les choses comme ça, que ce que la maman, elle peut apporter à son enfant en termes de, sur le plan nutritif et tout, c'est irremplaçable. Justement, le système immunitaire d'un enfant qui a bu avec sa maman, incomparable avec un enfant qui a bu de lait en poudre et tout. Voyez le taux d'allergène de nos jours, tous les enfants, ils passent, dans la Fajr, tous les enfants étaient à nu. Enfin, je ne dis pas que c'est par rapport à ça, mais entre autres, le système immunitaire, il n'est pas formé. Et grande hikma de notre Seigneur Azza wa Jal, lorsque la maman vient d'avoir son bébé, le premier lait qui sort, il n'est pas un lait blanchâtre comme un lait qu'on connaît. Je n'ai pas les termes, c'est des trucs scientifiques, hein, et il y a une substance qui est extrêmement riche et nourrissante les premiers jours pour la naissance de l'enfant. Lorsqu'il passe de ce monde où il est nourri directement par le cordon ombilical vers ce monde-là où il a besoin d'une nourriture externe, ben ce premier lait, il y a un terme, ça, vous cherchez sur Google, vous allez trouver. Le premier lait, les premiers jours, c'est quelque chose d'une richesse extraordinaire. Et bien dommage que des mamans, je ne sais pas pour quelle raison, facilité ou autre chose, décident de passer directement au lait en poudre et tout. Donc voilà, Allah a créé l'être humain, la femme de cette façon, pour permettre de transmettre des choses, il faut respecter la création d'Allah Azza wa Jalla. Je referme cette parenthèse. Et Halima explique que nous prions, je lis, constamment pour avoir de la pluie qui apporterait un peu de baraka, parce qu'elle avait également un champ, mais il n'y avait rien qui poussait. Elle avait un troupeau, comme c'était le cas de tous les gens du désert, un troupeau avec quelques moutons, mais ces animaux sortaient le matin, ils revenaient le ventre vide, il n'y avait même pas de pâturage. Donc c'était pauvreté terrible. Et là, ce qui est, moi, si on s'arrête à là, on fait une analyse, hein, une analyse, une réflexion purement humaine. Vous dites, mais comment ils s'en sortent-elles? Allez, que ces moutons n'ont pas à manger, c'est quelque chose. Que l'âne est faible et tout. Elle avait également une chamelle. Et quand on garde une chamelle, c'est pour quoi? C'est pour le lait, pour boire. Qui a déjà bu le lait de chamelle ici? Moi, j'ai déjà bu. Oui, sans savoir. Lors d'une invitation, chez un grand cher, un repas, Allahu Akbar, à la fin, avec le dessert et tout, à la fin, on nous amène chacun une petite tasse de lait chaude. J'ai dit, ben, je ne connaissais même pas cette habitude. C'est pas les habitudes du Hijaz. De Makka Madina, c'est pas ses habitudes, c'était à Riyad, ça c'est donc dans le Najd. Je dis, c'est une notre tradition. Bon, après, on fait pas mal élevé, on boit. Et je voyais que tous les autres invités, ils raffolaient de ça, ils redemandaient. Pour moi, le lait, déjà, c'est pas mon truc, donc, d'accord, en plus de lait chaud. Enfin, il mange la viande, mange de lait chaud, ouais, c'est pas, d'accord. Et après, on m'a dit, non, ça c'est le lait de chamelle. Je dis, ah ouais, d'accord. Après, bon, il n'y a pas de problème, hein. Donc, ils avaient une chamelle qui, elle aussi, ne donnait pas de lait. Donc des conditions difficiles. Mais même ça, c'est pas le plus grave. Moi, ce qui m'inquiète, ce qui m'aurait inquiété, s'il y avait une analyse objective, je dis mais elle n'arrive pas à donner du lait à son bébé. Il n'y a pas de lait pour son enfant. Elle prend un deuxième enfant pour le nourrir, ça va être impossible. Et c'est là qu'on voit que des fois, les conditions ne sont pas réunies sur le plan humain par rapport à notre réflexion. Tu as un projet, je prends cet exemple par analogie, hein, dans notre vie de tous les jours, on a envie de faire quelque chose, mais on voit que non, ça va pas marcher, c'est impossible. Il n'y a pas les moyens, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais quand Allah décide que quelque chose se passe, kun fayakun, Allah décide, décrète, et les choses se mettent en place. Des fois, tu as un programme, un projet, et il y a des circonstances qui font que tu arrives en retard ou tu as loupé quelque chose. Je prends un, là, c'est décalé, hein, mais c'est parallèle. Tu as un projet de voyage. Une théâtre doit aller pour un voyage de travail et tout. D'accord? Et la réservation a été annulée, quelle que soit la raison. Il y a un jour, deux jours de retard. Grand khair. Dans chaque chose, il y a une hikmah. Des fois, Allah te ralentit. Des fois, Allah te prive. Te prive. Carrément de quelque chose. Quelque chose pour lequel tu as fait doigt pendant longtemps. Et ton analyse humaine à toi a repéré que cette chose-là, c'est essentiel pour moi. J'en ai grand besoin. Et donc, tu fais doigt, tu orientes ton cœur vers Allah, tu demandes à Allah, accorde-moi telle chose, accorde-moi telle chose, accorde-moi telle chose. Tu fais les efforts, les démarches, d'accord? Et en finalité, tu n'as rien. Est-ce que ça veut dire qu'Allah n'a pas écouté des doigts? Astaghfirullah. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah est proche. Quand on demande, Allah est proche. Ujibu da'wata da'i idha da'an. Est-ce que Allah n'a pas donné considération à ta demande? Jamais. Allah, dans sa sagesse, ne rejette jamais les mains d'un serviteur. Jamais. Même si c'est un pécheur, gunégal, c'est abd min ibadillah, il lève les mains et demande à Allah, Allah écoute. Et Allah donne selon sa connaissance. Ilmullah, hikmatullah, selon sa sagesse, sa bienveillance envers toi. Allah peut t'accorder ce que tu veux exactement. Allah peut t'en priver partiellement et il te donne quelque chose d'autre. Allah peut te priver complètement parce qu'il n'y a pas un khair pour toi. Mais même si, moi imaginez que ça fait 15 ans que je fais doigt pour quelque chose. Imaginez, tu fais doigt pour la santé, tu fais doigt pour quelque chose et Allah ne te le donne pas. Allah ne te le donne pas, ne pense jamais que ses doigts n'ont servi à rien. Bilax, le prophète me dit que le jour de Qiyama, il y a des gens qui vont voir le jour des comptes, des montagnes de récompenses, qui ne leur appartiennent pas. On a déjà ces hadiths combien de fois, Abdurrahman? Mais c'est un rappel pour nous tous. Et la personne va dire, oh Allah, ces récompenses, ça c'est pas à moi ça. Et on lui dira, ça c'est les récompenses pour toutes les invocations que tu as faites de ce dunya et qui ne t'ont pas été accordées. Ça, c'est hikmatullah. Ça, c'est la sagesse. Ça veut dire que le croyant ne doit jamais désespérer de la clémence d'Allah et ne doit jamais baisser les bras. C'est au sens propre aussi et réellement au sens spirituel. Ne jamais arrêter de faire doua. Et avoir toujours, et ça, c'est le mot-clé, et c'est un des objectifs des cours du mardi, 1/2, l'étude des noms d'Allah, développer le husnul dhanni billah, toujours avoir une pensée positive de notre Seigneur, ne jamais se dire qu'Allah m'a abandonné, ne jamais se dire que Allah ne m'aime pas là, parce que c'est quand tu penses comme ça d'Allah qu'Allah agit comme ça avec toi. Alors que ce croyant qui a toujours une pensée positive à propos de son Seigneur, comme il dit ici, dans ça qu'Allah dit, ça même les bons. Allah agit avec toi de cette façon. Allah ne se détourne pas de son serviteur tant que le serviteur ne doute pas de lui. Et concernant les doigts, la pire des choses, là ça te condamne. C'est quoi? Le prophète dit que le doigt du serviteur est accepté tant qu'il ne dit pas « Da'outu Allah falam yustajabli ». Ma fini de mon doigt, moi. Il y a des fois des gens, dans les conversations, ils disent ça. Ce n'est pas les mêmes termes que le hadith, mais c'est le même ma'na, le même sens. Dis doigt, fais doigt, dis quel doigt, doigt nous fait tout le temps. Mais pareil, il est malade, situation, il ne change pas. Quelle quantité de doigt il faut faire encore? Le hadith dit que, je répète ce qu'on a dit, Allah accepte tant que. C'est-à-dire que si tu dis ça, khalas, Allah n'accepte plus. Vous savez, dans la façon d'Allah agir avec nous, il y a différents hadiths qui nous permettent de comprendre comment, quel doit être notre lien, notre respect envers notre Seigneur. Notre respect envers Allah, ce n'est pas uniquement sijda. Souvent, on a limité notre conception du respect à certaines choses. On est dans Haram Sharif, Makkah. Si on a vu quelqu'un, il fait son sijda et tilawa, il a posé son Coran tout de suite, astaghfirullah et tout. C'est vrai, les savants disent qu'on ne pose pas le Coran par terre. Mais je veux dire, c'est ça notre conception du respect. Mais le respect envers notre Seigneur, c'est aussi confiance en lui. Acceptation. Kaboul. Accepte ce qu'Allah a décrété. Accepte les décisions d'Allah. Tout ça, c'est, ça découle de la sirat, ça. Parce que c'est ce que le prophète a vécu et il nous a transmis, enseigné. On revient donc, Halima Saadia dit que donc, je disais qu'une des hikmas, elle arrive en retard par rapport à sa monture, par rapport à différentes circonstances. Son enfant n'a pas dormi la nuit. Et quand elle arrive, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus personne. Tous les bébés ont déjà été confiés à des nourrices. Et il restait un enfant. Et personne ne voulait de lui. Personne ne voulait de lui. Pourquoi? Parce qu'il était yatim. C'est quoi yatim? Yatim. Orphelin. Il est orphelin. Il dit oui, mais sa maman était vivante. Oui, mais dans la définition, chez les Arabes, orphelin, c'est celui qui a perdu son père. Même si sa mère, comprenez, est encore vivante. Parce que le père, c'est celui qui subvient aux besoins de l'enfant. Et donc, toutes ces femmes, ces bédouines, ont vu Mohammed, malgré sa lignée, hein, malgré sa lignée, quand ils ont connu que c'est lui, Mohammed ibn Abdullah, elles n'ont pas voulu. Parce qu'elles savaient qu'il n'y aurait personne pour les payer. Le papa est mort. Qui va payer? Des fois, Allah organise les choses d'une telle façon. Ça nous dépasse. Hikmatullah al-Baliqa. Et un des objectifs de l'étude de la sirat, c'est également pas uniquement étudier ce qui s'est passé, à quelle date, quel événement. J'ai déjà dit tout ça, on connaît, on a appris ça. Mais un des objectifs, c'est de voir la puissance d'Allah et comment Allah organise les choses, comment Allah Rabbul Izza crée une situation entre, pour un enfant qui est totalement défavorisé dès sa naissance et qui va devenir rahmatan lil alamin, l'homme le plus connu, comme l'imam a lu dans le premier rakat, wa rafa'na laka dhikrak. Allah fait que le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam est connu dans le monde entier. D'accord? Là, il y a la reine Elisabeth qui est décédée. Mais si vous allez dans le monde entier, vous comparez, on n'a pas comparé entre Mohammed et la reine Elisabeth, le nom de Mohammed est connu dans toutes les cultures, toutes les civilisations, et pas uniquement sur le plan géographique, à travers le temps. Et cela jusqu'au Qiyam. C'est de voir comment Allah crée les situations à partir de, je ne vais pas dire à partir de rien, mais à partir de situations qui sont défavorables. Et là, c'est que sa naissance. À sa naissance, il est rejeté. Il naît orphelin. Et chez les Arabes, naître orphelin, c'est terminé. Il n'y a rien pour toi. D'accord? Il naît orphelin. Personne ne veut de lui. Il est accueilli par la femme, la nourrice la plus pauvre, qui n'a même pas assez de lait pour son propre enfant. Et Allah va faire que les choses vont changer. C'est le décret divin. Quand Allah décide d'envoyer sa nusra, ça dépasse l'entendement, ça dépasse tout ce qu'on peut comprendre. On va s'arrêter à l'Inch'Allah pour ce soir. Et on verra que toutes les situations seront fermées pour lui. Il est accueilli par Halima. Après, il va être confié à sa maman. Sa maman meurt. Il a 6 ans. Rendez compte. Il n'a pas de père. Sa maman meurt alors qu'il a 6 ans. Il va être confié à son oncle, son grand-père Abdul Muttalib. 2 ans après, son grand-père meurt. Le protecteur meurt. Il va être, voilà, à droite, à gauche, il va être avec Abu Talib, et ainsi de suite. Il y a que c'était, le prophète a connu une vie extrêmement difficile. Quand il va annoncer qu'il est prophète d'Allah, tous ceux qui l'aimaient avant, on va voir comment les gens l'aiment, vont l'aimer à Mecca. Ils vont se mettre à le détester, ils vont le rejeter. Et une des choses, on s'arrête, qui avait le plus attristé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lorsque l'ange Jibril, je n'ai pas le hadith en tête, je risque de me tromper sur les détails, est venu lui annoncer qu'il fallait quitter Makkah. Là, on va un peu loin, hein. Pour quitter Makkah pour aller à Madina, on passe différentes années. Il y avait un élément qui avait choqué le prophète sallam. C'est quand on lui a annoncé que ton peuple va. Non, non, c'était pas à cet instant-là. Excusez-moi. C'était au moment de Bahira. Je dois relire mes notes. Mais à un moment donné, on a annoncé que ton peuple va te chasser de Makka. Et là, il était choqué. Ils vont me chasser de Makka, moi. Ça, c'était quelque chose qui l'avait choqué. Mais oui. Parce qu'il y a eu ces gens. Les gens de Makka, ils n'en voulaient plus de lui. Et ils se sont réunis, les chefs. Il a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Soit on l'emprisonne, soit on le chasse, soit on le tue, soit trouver une solution. Wayam kuruna, la suite, wayam kuruna, wayam kurullah. Et les plans sataniques de ces zuama Makka. Le plan pour tuer le prophète, ou l'exclure, ou le bannir. Wayam kurullah. Mais Allah a décidé autrement. Toutes les forces, le pouvoir, la richesse, c'était eux. Ils décident quelque chose. Makka est dans notre main, comme il dit. Ils décident quelque chose. C'est tout ça, également l'étude de la sirat, voit la puissance d'Allah dans la mission du prophète, alayhi salatu wassalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil izzakum.